commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est Josué, un modèle de foi à imiter. Josué, un modèle de foi à imiter. Combien cette semaine a été merveilleuse quand nous nous sommes rappelés, partant de la parole de Dieu, ce que Jéhovah attendait de vous et moi, individuellement, mais aussi en tant que corps. Il dit que cette montagne sera au-dessus de toute autre montagne. Et parmi les ingrédients qui font que nous soyons différents, que nous puissions posséder, que nous puissions dominer, il y a la foi. Et nous voulons étudier la vie de ces personnages merveilleux qui peut nous servir d'école et de référence. Écrivant aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs qui étaient dans la diaspora, l'apôtre fait deux recommandations merveilleuses. Dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12, il leur dit, « Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, un par la foi, deux par la persévérance, obtinrent des promesses. » Il dit que vous puissiez les imiter. Je vais y revenir tout à l'heure. Plus loin, dans Hébreux chapitre 13, dans son verset 7e, il dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs. » D'autres versions disent de vos leaders. Certaines versions vont même plus loin pour dire vos leaders spirituels. « Souvenez-vous de ceux qui vous ont conduit, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez. » Et cet homme « considérer » veut dire « étudier ». Étudier minutieusement ce qu'a été leur fin et imiter leur foi. Imiter leur foi. Imiter leur façon d'agir. Imiter, qu'est-ce donc? C'est simplement reproduire les traits caractéristiques d'une chose ou d'une personne. Imiter la foi de quelqu'un. Imiter la foi de Josué. Nous voulons nous servir de Josué comme modèle. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous aurons les mêmes résultats qu'il a pu avoir. Imiter aussi, c'est faire la même chose que quelqu'un d'autre, mais d'abord on l'a vu faire. Imiter, c'est prendre pour modèle ou référence quelqu'un. L'imitation suppose toujours une chose importante, mais qui est comme une sorte de préalable, l'observation, l'étude minutieuse, l'examen. On ne peut pas imiter sans passer du temps à voir de petits, de tout petits détails. À ceux qui ont connu l'excellent imitateur français qui est décédé il y a plusieurs années, Thierry Lelouron, fantastique. Il veut vous imiter Chirac, vous reproduire Chirac, vous avez l'impression que c'était lui-même. Imiter. Et la finalité de l'imitation, c'est la conformité avec les modèles. Être comme les modèles, faire comme les modèles. Et l'apôtre Jean, écrivant aux gens de son époque, dans 3 Jean, au verset 11, il leur dira, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais imitez le bien. » Imitez le bien. Il veut dire, imitez ce qui enrichit, imitez ce qui profite, imitez ce qui est louable. Que Dieu nous donne un pays où il y a des modèles. Où il y a des modèles. Nos jeunes gens aujourd'hui manquent des références. Des références sur le plan moralité, des références sur le plan courage, des références sur le plan persévérance. Des modèles, il y en a de moins en moins. Que Dieu nous donne d'être des modèles. Et s'il y a un domaine dans lequel, comme je l'ai dit, Josué peut nous servir de modèle, c'est le domaine de la foi. Et les très longs passages que nous avons lus, des Nombres chapitre 14, c'est un tournant dans la vie de ces jeunes hommes qui avaient 40 ans au moment où Israël est sorti d'Égypte. Un tournant. J'ai étudié ces passages, j'ai réétudié, j'ai essayé de me mettre à sa place. Je me suis posé la question, Élu et Caleb, qu'est-ce qui les a animés pour qu'ils lèvent certaines options? Qu'est-ce qu'ils ont vu que les autres ne voyaient pas? Ils s'est basé sur quoi pour lever certaines options que d'autres n'ont pas pu lever? Alors, si nous remontons dans Nombres chapitre 13, du premier verset au troisième, et puis du verset 17 au verset 20, il y a 3 indications importantes qui nous sont données. La première indication, c'est que Jéhovah ordonne l'exploration du pays. Israël a parcouru les 3/4 du chemin. Bientôt, ce qui était une promesse le pays où coulait le miel, Canaan. Canaan qui était un mot, une parole, va devenir une réalité palpable, une réalité que l'on peut toucher avec ses pieds. Mais alors qu'ils sont à l'orée d'entrer dans cette grande cité, il fait une recommandation à Moïse. Envoie des gens qu'ils puissent aller voir. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Je vous l'ai donné, mais vous ne l'avez pas encore. J'aimerais dire, ce que nous possédons réellement, c'est ce que nous possédons par la foi. Je vous les donne, mais vous ne l'avez pas encore. Mais c'est quand même à vous. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Donc premièrement, il envoie, il leur donne une exploration. La plupart des commentateurs se posent la question, ils n'arrivent pas à comprendre sur le plan militaire et stratégique la raison d'être de cette entreprise. Dans tout le cas, ils vont y arriver. Mais pourquoi tu les envoies? Deuxième indication qui nous est donnée dans ces brefs passages, c'est la qualité des personnes choisies pour cette expédition. On ne choisit pas n'importe qui. Les versets 17 à 20 nous donnent aussi, comme troisième élément, les détails de la mission. Les versets 3 d'abord dit, Moïse les envoie du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Écoutez la fin. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Et les versets d'avant dit que c'était des chefs par tribu. Mais comme je le disais, la troisième indication, les versets 17 à 20, nous donnent les détails de cette mission. Moïse les envoya pour explorer les pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est quel est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Puis à la fin, une exhortation. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Et la Bible dit, c'était les temps des premiers raisins. Donc toujours dans Nombre, chapitre 13, le verset 8 ainsi que le verset 16, nous donnent encore deux informations supplémentaires sur notre héros et notre modèle, Josué. Le verset 8 dit, nous montre qu'il faisait partie de la tribu d'Éphraïm. Il est de la tribu d'Éphraïm, tribu greffée par Jacob avant sa mort. Quand il est arrivé en Égypte, il a appelé les deux enfants, le premier-né de Joseph, et il a voulu les bénir. Normalement, la bénédiction la plus grande devait revenir à Manassé, et la plus petite à Éphraïm, mais il a croisé les bras. Il a placé Éphraïm en premier. Et les gens de cette tribu étaient toujours animés de cette mentalité. Ils croyaient aux déclarations qui ont été faites les concernant. Ils croyaient aux choses que Dieu avait dit les concernant et ils agissaient de la sorte. Ah, il ne suffit pas que Dieu vous dise des choses. Il faut y adhérer et croire. 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 La foi est une arme dangereuse. Tribu d'Éphraïm. Mais deuxième information qui nous est donnée, ce qui s'appelait au préalable, Osée, Oshéa. En hébreu, salut ou délivrance de Dieu. Mais juste avant qu'il n'aille avec les autres pour faire cette expédition, on ne sait pas pourquoi, Moïse décide de le changer de nom. Que dis-je? Il ne change pas tellement de nom, mais il met du divin dans son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Oshéa, mais tu l'appelleras Josué, Yehoshua. Oshéa veut simplement dire salut. Mais Yehoshua veut dire salut de Dieu. J'aimerais qu'il y ait du divin dans ce que tu vas vivre. Chaque fois que tu auras une délivrance, sache que c'est Dieu qui est l'origine. Désormais, conduis en sachant que c'est Dieu qui t'accordera le salut. C'est Dieu qui t'accordera la délivrance. Et je crois que le changement de ses noms a dû sûrement changer aussi sa mentalité. Nombre chapitre 13, au verset 25, nous donne une autre indication. C'est que non seulement on leur a dit, allez explorer le pays, mais la durée de la mission, la Bible dit qu'ils ont fait 40 jours. 40 jours durant lesquels ils se sont quasiment dilués parmi ces peuples. Ils ont parcouru le pays de l'ouest à l'est. du nord au sud. Et puis, Nombre 14, verset 26. Nombre plutôt 13, pardonnez-moi, verset 26, nous montre la fin de la mission. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. 40 jours durant, les cœurs de tout un peuple attendaient les rapports. Notre futur dépend d'eux. Je ne sais pas si c'était un grand meeting qui était organisé quelque part. Batubotindaki, Bazongi, Bangoyo, Oyebisalsobamoni, Nini. Et tout le monde attend. Alors qu'on est en train de chanter des cantiques introductives, certains ont tendance à vouloir dire Boukata Manzimbo, Bayebisalso. Bamonaki Nini, qu'est-ce qu'ils ont vu réellement? Et la fourchette alors du verset 27 au verset 33 nous montre comment les groupes qui étaient compacts, unis, et harmonieux, au départ, ces disloques volent en éclats. Il y a d'un côté 10 et de l'autre côté 2. Quand ils sont partis, ils étaient 12, formant une équipe, un team, un tout. Mais voilà, désormais, ils ne sont plus ensemble. Sur le 2/3 des choses, ils sont tous d'accord. Mais sur 1/3, ils n'ont pas le même langage. Les 2/3 des choses sur lesquelles ils sont d'accord, premièrement les versets 27, tous sont d'accord que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays fantastique. C'est un pays qualitativement élevé. Deuxième chose sur laquelle tous y sont d'accord, que le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Et que ceux qui sont comme habitants sont des grands, des géants, des fils d'Anak. La version française courante du verset 28, ceux qui habitent sont puissants et les villes sont très grandes et très fortifiées. Et nous y avons vu les descendants du géant Anak. Et le verset 30 jusqu'au verset 33 nous montre combien les groupes se disloquent. Le verset 30 nous montre les discours de Caleb, mais derrière les paroles de Caleb, il y a aussi les paroles de Josué. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. La version français courant dit, nous sommes capables. Nous avons la capacité de prendre possession de ce pays. Josué, Caleb, où sont ces capacités? N'avez-vous pas vu les géants? Être capable, c'est être apte à faire quelque chose. Avoir les aptitudes ou les moyens de faire quelque chose. Avoir un équipement suffisant ou les atouts pour faire quelque chose. Et ils le savent. Ils sont sûrs d'une chose. Nous avons vu ça, mais nous avons les atouts. Nous avons les aptitudes. Nous avons les moyens. Et alors que Josué ainsi que Caleb disent, nous sommes capables. Écoutez, à partir du verset 31, le deuxième groupe, formé de 10 personnes, ils disent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas. Les uns disent, nous pouvons. Les autres disent, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que j'aime dans les choses de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Parce que s'il y avait vote, 10 gagneraient, mais ils auront sincèrement tort. Deux, apparemment, une minorité, mais une minorité connaissant et ayant la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas. 10. Ouf. Seigneur, donne-nous des leaders qui connaissent le pouvoir des mots. Alors qu'ils disent, nous ne pouvons pas, ils ne les disent pas en cachette. Là-bas, ils ont fait un rapport devant toute l'assemblée. Les gens entendent. Nous y avons vu des géants. Et ils vont plus loin. À la fin du verset 32, il dit non seulement nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Écoutez ce qu'il dit. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Ils font une projection. Tels qu'ils nous regardaient, ils nous méprisaient. Nous étions à nos propres yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donne-nous des leaders qui connaissent le pouvoir des mots, qui savent quelle attitude avoir et ne pas avoir. Je prie que Dieu nous donne à Philadelphie des hommes qui sont hommes avec H majuscule. Pas des hommes, mais les là, les là. L'enfant vient demander, papa, viens m'acheter un charron. Anga na kodmi di embika. Yebisa banana yo. J'ai tendance à dire, fomoutou. Maman dit, achète ma séoire. C'est vrai, c'est un peu plus cher. Dis, chérie, calme-toi. Nzamba rosala. Il te retrouve déjà en train de commencer à chercher le ciel. Esengo, 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 et jali kunana lola. Je vous ai relaté cette histoire ici. Hein. Comme mon épouse n'est pas là, je peux en parler un peu plus librement. Vous qui l'appelez au téléphone, ne dites pas que j'ai dit ça. Hein. Parce qu'elle m'a dit, elle reçoit un rapport. J'ai dit, j'arrive à la maison à 20h45, elle m'a relaté tous les cultes. J'ai dit, waouh! 93, on venait de se marier et puis il y a eu les pillages au mois de janvier. Je revenais de prêcher des lupins et puis la réunion a dû être arrêtée. J'ai fait les pieds des lupins jusqu'à Lausanne parce que j'habitais juste à la clôture de la régie des eaux. Je savais qu'elle était restée seule et que je ne pouvais pas la laisser. Elle était déjà enceinte de notre première fille. Et quand j'arrive au loin, je vois toutes les lumières étaient éteintes parce que tout le monde avait peur. Et quand je voulais rentrer, quelqu'un m'a dit depuis quelques temps, on pille systématiquement, maison après maison. Quand ils arrivent, ils disent au Sougagiwapi. J'y suis entré, 10 minutes, c'était beaucoup. J'ai entendu, on était en train de toquer à la porte. Je me suis posé la question, ici, je n'étais pas venu avant. C'était 5 jeunes gens, ils ont cassé la porte et ils sont rentrés. Et tant que je réalise, mon épouse a battu le record du monde de 100 mètres. Elle est partie comme une flèche. Chouah! Si vous regardez notre lit de l'époque, je ne pense pas que ça faisait 50 cm. Là où les lits s'arrêtaient. Le lendemain, je lui ai même demandé au côté qu'on en dégagne. Les biologistes appellent ça l'instinct de conservation de la vie. Liwe yo kangona sango, liwe zo na maluku, zo na makolo. Liwe komia au papa. Et sincèrement, j'aurais voulu être au même endroit qu'elle. Mais j'avais le malheur d'être né homme, d'être le mari, le chef de la maison. Il y a des moments où nous devons montrer que nous sommes les chefs. Et je me suis avancé vers ces jeunes gens, ils étaient à 5. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai montré que je maîtrisais tout et que j'étais calme, mais dans mon cœur, c'était autre chose. J'ai discuté avec les 5, ils ont pris une ou deux choses. J'ai dit, sortez! Puis ils sont partis. Et puis je fermais la porte. Quand je suis rentré, mon épouse m'a dit, mais tu es courageux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? Mais vous savez ce qui est arrivé après? Les 30 minutes qui ont suivi, je suis allé aux toilettes 8 fois. Le corps a réagi, papa. Donne-nous des leaders qui sont des leaders. Donne-nous des leaders qui savent que les yeux sont fixés sur eux. Déborah a dit, les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Et ces gens, ils n'ont pas conscience de cela. Tout un peuple a rêvé. Tout un peuple a adhéré au plan de Dieu. Ils ont bravé toutes sortes de choses. Et on les a envoyés et ils n'ont pas conscience de cela. Ils parlent en public. Nous ne pouvons pas. C'est militairement impossible. Logistiquement impossible. Non. Dire au peuple que nous allons continuer, ça serait de l'illusion. Ça serait des rêveries. Non. Un sens des responsabilités nous pousse à ne pas continuer. Mais quand ils disent ça, deux disent, nous pouvons. Seigneur, aide-moi quand je sens ce que tu as dit, qu'importe ce que le grand groupe va dire, que je puisse dire, nous pouvons. Nous pouvons. nous pouvons. Seuls les gens qui sont convaincus deviennent convaincants. Ah, vous connaissez ces scientifiques qui a observé et qui est arrivé à une conclusion. Et tout le monde était contre lui. Et alors qu'on allait pour l'exécuter, il regardait et dit, pourtant ça tourne. Donc des gens, quand ils croient quelque chose, même si tout le monde n'est pas d'accord, qu'ils puissent le déclarer. Trop de choristes, trop de gens qui aiment chanter un refrain. Très peu de gens ayant des convictions. Quelqu'un dit, les hommes des convictions sont de plus en plus des hommes rares. Un autre est allé plus loin. Il dit, les hommes des convictions disparaissent comme les dinosaures et les brontosaures. Ils font partie de l'histoire. On a même tendance à croire que ces gens ont existé. Les gens qui croient en une chose et qui les déclarent. Nous pouvons. Et la Bible dit, au verset 32, ils commencèrent à décrier devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Une autre version dit, ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites les pays qu'ils avaient visités. Une autre version dit encore, ils se mirent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés et se sont renseignés. Décrier. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, si nous allons là-bas, nous allons mourir. Seigneur, aide-moi. Et puis comme réaction de ce que les 10 ont dit, Nombre chapitre 14, verset 1 dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit à cause des 10. Seigneur, aide-moi à être un communicateur d'autre chose. Les uns sûrement la nuit, ils ont rêvé des fils d'Anak marchant comme le building de Sosakom. Tellement on leur a dit. Vous savez, quand on vous fait peur, l'imagination devient créative. L'imagination est terrible. Hein? Je me souviens en 1974, mon jeune frère Rémi et moi, pasteur aujourd'hui, nous sommes rentrés très tard d'une manifestation. Et puis subitement la nuit, Rémi m'a réveillé. Nous dormions, nous deux, sur un même lit. Il m'a dit, ah Roland. Moutoumour à côté de la chambre. Et j'ai regardé, et c'est vrai, on avait l'impression que c'était un géant. Et 3h à 5h, nous crions, oh, comme il sautait! Oh, comme il sautait! À un moment, c'était fort, on a crié, papa! Et papa est venu, quand il a allumé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est papa qui était devenu déposer son manteau. Et c'est son manteau qui faisait ça. Et durant plus de 2 heures, nous nous battions au coca du sauté. Rémi, quelquefois, il dit, oh, il y a Roland, il bouge. Et on était en train de se disputer. Qui va dormir contre les murs? Parce que si on attaque, lui, il meurt. Il me disait, mais il y a un grand frère. Je dis, grand frère, ah ouais. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris. Pleura pendant toute la nuit. Toute la nuit. Le verset 1er au verset 3 nous montre 3 choses qui vont passer à cause de ces rapports. D'abord, il y a l'abattement et le découragement. Il pleure pendant toute la nuit. Et deuxièmement, il y a la nostalgie de l'Égypte. Le verset 2 dit, tous, comme les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, tous lui dirent, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Verset 3, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Nostalgie. Mais troisième conséquence, et ça c'est la conséquence la plus forte, mépris de Dieu et rébellion, à la fois contre Moïse et contre Dieu. Écoutez ce qu'ils disent au verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Parce qu'ils sentent que Moïse et Aaron adhèrent aux thèses de Caleb et de Josué. Non, extirpons-nous de ces leaderships rêveurs, de ces leaderships irresponsables. Dieu a placé Moïse, mais Moïse est rêveur. Et Moïse et son Dieu sont irresponsables. Si nous le suivons, nous allons droit cogner contre eux. Plaçons quelqu'un de réaliste. Plaçons quelqu'un de réfléchi. Ah, j'aime la réaction de Josué, ainsi que celle de Caleb. Verset 6 dit, ils déchirèrent leurs vêtements, signe d'amère tristesse et désapprobation. Mais non seulement qu'ils déchirent leurs vêtements, le verset 8, il nous montre qu'ils ont un discours autre, un discours contraire, malgré ce que je dis, la voix de la majorité. Josué et Caleb parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ils sont constants. Que des gens qui changent. Aujourd'hui, d'accord avec une chose, demain d'accord avec le contraire. Et on se demandait si la même personne. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. C'est un pays où coulent les lait et les miels. Verset 9, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ces pays. Vous dites de ne pas les craindre, vous avez vu leur taille. Car ils nous serviront des pâtures. Nous allons marcher dessus. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est de notre côté. L'Éternel est de notre côté. Ne les craignez point. La version française courante dit, nous n'en ferons qu'une bouchée. Waouh. Josué et Caleb, vous n'en ferez qu'une bouchée? Tu as vu comment ils sont? Est-ce que tu vois les mêmes adversaires? Tu vois les mêmes gens devant nous? Et les Français courants ajoutent, en effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignons pas. Au moment où le peuple parle de ne pas y aller parce qu'ils ont cru en cela, Josué et Caleb disent autre chose. Et le verset 10 dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Il faut éliminer ces irresponsables. C'est à ce moment que Jéhovah intervient. Ah, je prie que Jéhovah intervienne. Et quand Jéhovah intervient, il a double réaction. La première réaction, il fait part de son indignation. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu des lieux? Que des gens qui sont amnésiques. Que des gens qui connaissent le Dieu fort d'hier. Le Dieu fort d'avant-hier. Il dit, jusqu'à quand allez-vous me mépriser? N'est-ce pas que vous étiez contre un mur appelé Mer Rouge? Et que derrière il les armées égyptiennes? N'est-ce pas que j'ai fendu les eaux? N'est-ce pas que vous avez marché? Ce que j'ai fait hier, suis-je incapable de le faire aujourd'hui? N'est-ce pas que j'ai détruit les adversaires devant vous? N'avez-vous pas vu les Amalécites être vaincus simplement par des hommes qui n'ont même jamais été entraînés? N'avez-vous pas vu la manne tomber du ciel? N'avez-vous pas vu l'eau sortir du rocher et abreuver tout un peuple? Seigneur, aide-moi à croire que tu n'es pas seulement les dieux d'hier, mais que tu es aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est triste quand quelqu'un a suffisamment vu la main de Dieu hier et qu'aujourd'hui, il méprise Dieu. Ah, il y a tellement de choses que j'ai vu Dieu faire hier qui me qualifient être un candidat à la foi aujourd'hui. Parce que je sais que le Dieu d'hier, c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Ma Bible à moi dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais non seulement l'indignation. Au verset 28, Dieu comme un magistrat, comme un juge, il frappe du poing sur la table et fait part son verdict. Écoutez ce qu'il dit. Dis-leur, je suis vivant. Je leur ferai selon qu'ils ont parlé à mes oreilles. Une autre version dit, je ferai selon les bruits qu'ils ont fait monter vers moi. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit, c'est pas moi qui veux décider de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ça dépend de ce que chacun a dit. Ceux qui ont dit que je suis capable de les faire entrer dans cette terre, je ferai ce qu'ils ont dit. Ceux qui ont dit que nous ne pouvons pas, je vais simplement acter ce qu'ils ont dit. Seigneur, je prie ce matin à Philadelphie que tu fasses à quelqu'un selon les paroles qui sortent de sa bouche. Je prie que ce matin, tu fasses pour quelqu'un selon les paroles qui sortent de sa bouche. Vous savez, Dieu entend ce que nous disons. Je leur ferai selon qu'ils ont parlé à mes oreilles. Et la fourchette de l'ordre du verset 36, verset 37, nous parle de la punition immédiate et puis l'extension. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent d'une plaie devant l'Éternel. Mais j'aime le verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Plus tard, Josué qui restera parmi les rescapés, il verra le mur de Jéricho tomber. Plus tard, le même Josué entrera dans la terre promise, fera des conquêtes, va soumettre les rois et fera les partages du pays. Et même Caleb viendra réclamer son héritage en disant « Dieu m'avait promis ça, puisqu'il s'est engagé qu'il puisse me donner ce qu'il a dit. » Josué 24, verset 29, nous montre quand il est mort à 110 ans. Il a vécu 70 ans supplémentaires, simplement parce qu'il avait foi en Dieu. Ceux qui ont dit que Dieu était incapable, tout s'est arrêté. 70 ans lui ont été donnés parce qu'il a cru en un Dieu fort, en un Dieu capable. Qu'est-ce que cet épisode de la vie de cet homme qui nous sert de modèle et de référence peut nous enseigner? 5 choses et nous allons passer un moment dans la prière. La première chose que Josué nous enseigne, c'est que la foi est un choix. La foi, c'est un choix. Dieu ne nous imposera jamais des choses. Dieu peut dire des choses, Dieu peut déclarer des choses. C'est à toi et à moi d'adhérer ou de ne pas adhérer. La foi, c'est un choix. Ah, quand je regarde les marches de ma vie, quand je regarde les épisodes de ma vie, je bénis Dieu d'avoir fait le choix de la foi. Je peux revenir 25 ans, 30 ans en arrière, des choses que j'ai eu à faire qui ont fait que je sois là où je suis. Mon père me disait cette belle phrase, il dit « Nos choix gouvernent notre vie. » Nos choix gouvernent notre vie. Vous serez, vous ne serez pas selon les choses que vous faites ou que vous ne faites pas. Que des gens qui passent à côté de l'essentiel parce qu'ils ne font pas certains choix. La foi, c'est un choix. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, parlant de la vocation d'Abraham, il dit c'est par la foi que lors de sa vocation, il obéit et il partit. Et le verset se termine en disant sans savoir où il allait. Dieu a parlé, mais Dieu ne l'a pas forcé. Il a fait le choix d'adhérer aux paroles de Dieu. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui ce matin va faire le choix de la foi. Le choix d'aller dans une certaine direction. Dieu peut t'appeler à temps plein, mais répondre, c'est un choix. Un choix. Un choix. Un choix. J'ai discuté avec mon épouse hier soir, on parlait au téléphone. Je lui ai relaté notre marche, comment on a commencé. Qu'elle soit là aujourd'hui à mes côtés, ça a été un choix. Elle a cru en un homme. J'ai parlé avec un des hommes, il est là ce matin, qui partit dans la gestion de ces pays à un niveau très élevé. Il m'a relaté ses années de souffrance en tant qu'étudiant en Belgique. Et comment il s'est avancé vers cette jeune fille de très très bonne famille. Il a dit, cette jeune fille a fait le choix de m'accepter. Il dit alors que j'étais encore mais vite. Choix. J'ai suivi ces documentaires où la femme de Barack Obama était en train de dire, quand ce jeune homme me faisait la cour, d'autres venaient. Elle a dit, Dieu merci que je ne lui ai pas dit non. Sinon j'aurais été une dame quelconque dans le pays. Mais dire oui à cet homme a fait de moi non seulement la première dame, mais la première dame noire. Chadari, mon oiseau raté, hein. Dans 2 Rois chapitre 7 au verset 2, des paroles sont prononcées par les prophètes. Demain à 7 heures, voilà ce que Dieu va faire. L'officier fait le choix de ne pas croire. Il dit, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Les uns croient, les autres ne croient pas. La foi. C'est un choix. Dans Luc chapitre 1er, au verset 38, la Bible nous parle du choix des maris. Alors que l'ange apparaît à cette jeune fille, il lui dit, voilà ce qui va arriver. J'aime à la fin, il dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle adhère à des choses difficiles, à des choses sur le plan cartésien difficiles à accepter. Elle fait le choix. Mais deuxième chose que Josué nous enseigne, notre modèle, c'est que non seulement la foi est un choix, mais la foi est toujours un choix risqué. Un choix qui comporte des risques. Parler des risques, parler de ce qui nous expose à des dommages, qui nous expose à un danger, qui nous expose à subir des choses, ouvrir la possibilité de subir des dommages, la foi. Il n'y a pas de foi sans risque. On ne vérifie jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Que des gens qui veulent avoir toutes les assurances avant, quelquefois vous les aurez, mais quelquefois vous ne les aurez pas. Quelquefois on vérifie que ça marche quand on a osé faire le pas. Pas de foi, sans risque. Quelquefois la différence entre un homme ordinaire et extraordinaire, c'est les risques. J'aimerais le déclarer ce matin, quelqu'un deviendra ou ne deviendra pas sans les risques qu'il va prendre ou ne pas prendre. La foi, un choix, risqué. Il y a des gens ambitieux, il y a des gens qui souhaitent accomplir de grandes choses, mais qui n'aiment pas prendre des risques, ou quelquefois ne peuvent pas les prendre. Ils veulent une chose et son contraire. Les Français disent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Lisez les livres d'histoire. Les gens qui sont arrivés quelque part ont pris des risques. J'ai suivi encore ces documentaires et on était en train de poser des questions à Barack Obama. Il a dit, 6 mois après qu'il ait fini sa réflexion et qu'il voulait se lancer, il dit, il a écouté 25 personnes. 23 lui ont dit, ne te lance pas. C'est vrai, la Bible dit, les saluer dans un grand nombre de conseillers. Mais il y a des moments où il faut faire comme l'apôtre Paul qui dit, je ne consulte ni la chair, ni les sangs. J'en parlerai encore tout à l'heure avant de conclure. Il a dit, seul un vieux blanc est venu lui dire, le meilleur moment pour toi de te lancer, c'est maintenant. Il dit, pourquoi? Tu n'as pas encore un passé au Congrès où tu as pris position par rapport à telle décision ou par rapport à telle autre chose. Sinon, les gens risqueraient de te les rappeler. Il dit, comme tu es vierge, ose. Je ne voudrais pas mourir avec des regrets. Je crois au destin. Je crois aux choses écrites d'avance. Dieu dit par la bouche de David, il dit avant que mes jours ne puissent exister, ils étaient tous inscrits dans les livres. Qu'il y a des choses inscrites dans les livres de Dieu qui ne se passeront jamais. Il ne suffit pas que Dieu écrive des choses. Il nous faut poser des actes pour que ces choses écrites arrivent. Certains arriveront dans la félicité céleste, ils verront des choses que Dieu a écrites, mais qui ne se sont pas passées, parce qu'ils n'ont pas su faire certaines choses. Quels sont les risques que tu es prêt à prendre? Jusqu'où tu es prêt à aller? Avec Dieu, quelquefois, il faut savoir oser. Et même quand on n'a pas toutes les assurances, avec Dieu, il y a des risques utiles, profitables, à prendre, des risques qui enrichissent. Dans Esther chapitre 4, verset 16, cette jeune femme prend un risque. Après avoir prié, jeûné, elle dit, je me présenterai devant le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Elle n'est pas sûre du résultat, mais elle est sûre de ce qu'elle doit faire. Je ne sais pas si ça va marcher, mais moi je vais faire ce que je dois faire. Donne-moi quelqu'un qui va oser se lancer dans ses affaires, monter cette structure. Monter ses bureaux de consultance. Y aller foncer. Pas de foi. Sans risque. Dans Samuel chapitre 22, au verset 2, la Bible nous parle d'un risque qu'un groupe de 400 personnes ont eu à prendre. Saül règne sur le pays. David a été certes oint, mais il n'a ni armée ni personne. Et la Bible dit, tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui avaient des créances, tout ce qui était mécontent, c'est joignir à David. au mauvais moment, au moment où il n'a rien, au moment où toute la force est du côté de Saül, au moment où il suffit d'un mot, Saül va les écraser. Mais c'est de ces 400 personnes qui sortiront les vaillants hommes de David. Ils ont su faire le choix qu'il fallait, au moment où il fallait, alors que tout sur le plan réel ne les prédisposait pas à prendre de tels choix. J'aime pas les ouvriers de la dernière heure. Ceux qui nous rejoignent quand ils commencent à voir des signaux. Quand ils commencent à sentir que la barque est en train de changer de direction. Donc nous, des gens qui adhèrent quand rien ne montre que ça peut marcher. J'aime pas les fidèles de la 11e heure qui nous rejoignent à 23 heures. Mais depuis le matin, ils regardaient. Et dans notre pays, il y en a plein. Troisième chose que ces héros de la foi nous enseignent. Ils nous enseignent que les actes de la foi ou posés à cause de la foi sont toujours sanctionnés par un paramètre appelé le temps. Les actes de foi ou posés à cause de la foi sont toujours sanctionnés par un paramètre appelé temps. Le temps est un révélateur. Le temps vous remplira soit de joie, de félicité ou de bonheur, selon que vous avez su faire la bonne chose au bon moment. Mais le choix aussi vous remplira de frustration, des regrets et même des remords. À vous qui êtes jeunes, il y a des choses que vous ne savez pas. Demandez à ceux qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont en train de sortir de la vie. Certains, quand ils regardent, ils voient leur vie des occasions ratées. Des choses qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Des occasions qu'ils auraient dû saisir, qu'ils n'ont pas saisi. Des portes qui sont ouvertes et qui n'ont pas su. J'écoutais il y a 2 semaines, on parlait d'un politique centrafricain qui est décédé. On faisait sortir une vieille interview d'il y a 10 ans. On lui a demandé quel est le regret de ta vie. Il dit, ce n'est pas avoir accepté les premiers ministres à cette époque-là. Et quand il en parlait, on a senti sa voix devenir lourde. Seigneur, aide-moi à ne pas mourir avec des regrets. J'ai à peine 47 ans. Combien d'autres portes ouvertes il y aura devant moi? J'aimerais les saisir toutes. J'aimerais ne rien manquer. La Bible, parlant de David, il dit, il est mort rassasié des jours. Le terme rassasié des jours veut dire en hébreu, ayant retiré des jours ce que les jours contenaient. J'utiliserai un terme économique, utilité marginale. Il a tout consommé. Rien n'est resté. Il a pressé l'orange de la vie. Il ne restait même plus une gouttelette de jus. J'aimerais pas laisser quelque chose. J'aimerais pas manquer quelque chose. J'aimerais tout prendre. J'aimerais au jour où je vais mourir, que le ciel dise tout est accompli. Il a fait ce qu'il devait faire. Ouf. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Frères et sœurs, la vie, elle est trop sérieuse pour que nous puissions hésiter quelquefois. Elle est trop sérieuse pour se tromper. On ne la vit pas au brillant, puis au propre après. Il y a des gens qui pensent toujours avoir le temps de faire. Mon père me disait cette belle phrase. Il disait, Roland, ceux qui ne trouvent pas le temps de bien faire n'auront jamais le temps de refaire. J'ai le temps, jusqu'un jour tu n'auras plus le temps. Et pour que les décisions de la vie, et surtout celles qui comptent, pour que nous puissions prendre les bonnes, nous avons besoin quelquefois d'un ingrédient important. Mais cet ingrédient, nous ne l'avons pas toujours. Et je me redis, quelquefois, ces assurances que nous cherchons nous sont données au moment où nous voulons nous décider, ou quelquefois avant de nous décider. Et je me redis, quelquefois, c'est seule notre intuition qui nous dit. Je préfère utiliser ces termes, intuition. Nous savons que nous devons le faire. Nous savons que nous sommes dans les vrais. J'aime souvent le dire en des termes simples. Nous ne savons pas comment nous savons. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous savons. Je sais que je dois le faire. Je sais que si je ne le fais pas, je passe à côté. Comment tu le sais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais. Et il y a quelquefois ce dépôt de savoir qui vient se déposer dans mon cœur. Je dois quitter l'Europe pour venir m'installer en Afrique. Je dois laisser ce travail pour passer à autre chose. Ah, j'aime quand celui qui accompagnait Jonathan lui dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur. et n'écoute que ton sentiment. Mais le psalmiste a dit aussi, tous ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pentecôtiste, quelquefois Dieu ne parle pas forcément. Quelquefois ça ne sera pas une prophétie. Quelquefois ça sera une conviction. Et quand je priais ce matin, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui n'arrivent pas à se départir d'une pensée. Quand tu veux l'ôter, elle reste. Quand tu veux la déraciner, elle revient. Reconnais que c'est Dieu qui l'a placée en toi. Ah, j'aurais voulu que Ruth, la Moabite, soit ici ce matin. Elle nous dira, ma vie s'est jouée en un instant. Notre belle-mère nous a dit à notre belle-sœur Orpa, rentrez. Nous avons toutes pleuré. Elle est rentrée. Et je pourrais dire, elle est rentrée dans les oubliettes de l'histoire. Moi, j'ai dit oui. Et je suis rentré grandement dans les ports de l'histoire. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Humainement parlant, Ruth a tout à gagner en restant en Moab. C'est sa nation, c'est sa patrie, c'est sa culture. Elle a des amis, elle a des membres de famille. Si elle manque des choses, elle peut aller demander. Elle a tout à perdre en allant de l'autre côté. C'est un autre pays, une autre culture. Elle est étrangère. Et puis en plus, elle est attachée à une veuve et pauvre. Je le disais vendredi quand je terminais ici. Tous les jours de la vie sont jours, toutes les heures sont heures, toutes les minutes sont minutes, mais il y a des instants de la vie qui ont plus d'importance que d'autres. Où les vies se font ou se défont. Où l'on saisit et l'on entre dans l'histoire et l'on refuse et l'on passera à côté. Tout à l'heure, dans 5 minutes, j'aurai fini. Dieu m'a mis à cœur que plusieurs sont ici à l'orée des grandes décisions. Certains savent depuis quelque temps ce qu'ils doivent faire. Je ne sais dans quel domaine. Vous voulez vous avancer. Vous voulez oser. Ne quittez pas cet endroit sans avoir vu les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants et les conseillers qui resteront juste ici derrière. Venez, tenez-vous la main dans la main avec eux. Parlez avec, priez avec, pleurez avec. Et quand vous allez vous lever, quelque chose va se passer dans votre, comme, dans votre cœur comme Anne. L'abbé dit, le visage d'Anne ne fut plus le même. Savoir saisir ces choses. Quatrième chose que Josué nous enseigne. Josué nous enseigne que la foi a deux sources. La première source de la foi, c'est la connaissance de Dieu. Et la deuxième source, c'est la mémoire. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Vos actes dépendront du savoir que vous avez de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Seigneur, donne-nous des gens qui savent. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Jean 11, verset 41-42, alors que Jésus-Christ prie devant la tombe de Lazare, il dit, je prie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Quel est le savoir que vous avez de votre Dieu? Ah, ce savoir n'est pas l'ivresse, ce savoir n'est pas scientifique, c'est un savoir par expérience. Dans Job, chapitre 19 au verset 25, cet homme alors qu'il avait des ulcères dans son corps, alors que rien n'allait, alors que tout nous disait que c'était fini, il s'est levé, il a dit deux choses, je sais, donne-nous des gens qui savent, je sais que mon rédempteur est vivant, mais je sais aussi qu'il se lèvera le dernier. Il y a des choses que je les sais par expérience, je les sais parce que j'ai vu Dieu agir, j'ai vu quelquefois quand tout semblait fini, c'est Dieu a agi, et je sais de quoi il est capable. Mais au-delà de la connaissance, il y a la mémoire. Dieu a dit à son peuple, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits? Il dit, vous avez un palmarès. Les autres peuvent ne pas voir. Dans votre mémoire, vous avez des choses que vous m'avez vu faire. Psaume 105, verset 4 à 5 dit, ayez recours à l'Éternel et son appui. Cherchez continuellement sa face. Mais le verset 5 ajoute, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements. Josué s'est avancé, ainsi que Caleb, parce que non seulement ils avaient la connaissance de Dieu, mais ils avaient aussi une mémoire. Ce qui a fait avancer David devant Goliath, dans 1 Samuel 17, verset 37, c'est la mémoire qu'il avait. David s'est levé, il a dit, le Dieu qui m'a fait tuer l'ours, le Dieu qui m'a fait tuer les lions, me donnera aussi cet ennemi. Aide-moi à voir une banque de données où je garde les hauts faits de Dieu, où je dis Dieu a agi et Dieu peut agir. Ah, je me souviens de ces jours à Nairobi, j'en ai parlé peut-être une fois ici. Nous ne recevions plus notre bourse qui venait de Kinshasa depuis plus de 6 mois. Et notre troisième fille devait venir au monde. Les directeurs de l'internat, là au campus, nous avaient dit dans 3 mois, si telle chose n'est pas faite, vous allez quitter. Nous écrivions à Kinshasa, Kinshasa ne faisait rien. Mon épouse m'a demandé, Roland, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, je ne sais rien, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. La dernière semaine, le directeur m'a appelé et dit, Dallo, c'est jusqu'à vendredi, rien n'est fait. Vendredi à 14h, nous vous chassons. Je regarde dans les yeux, je dis, vendredi, je passerai la nuit quelque part. Et le fameux vendredi est arrivé. Je me souviens, le matin, nous sommes allés au restaurant, on nous servait à manger à 7h. J'ai mangé, mon épouse ne mangeait pas. Elle me regardait, elle dit, Roland, Zoli a paix. J'ai dit, bon, on a ça, anima. On a mis Djembika. À midi, on a trouvé la fin des cours et tout le monde courait vers le restaurant. J'étais la troisième personne. Elle m'a dit, Zoli, où est l'encore, Genegolia? Je n'avais pas de solution. J'ai dit, je mange avant la mort. J'aime ce que mon pasteur disait quelquefois. Il dit, Dieu aime agir à moins 5. Quand on a perdu espérance. Dieu aime les suspens. Dieu aime les temps additionnels. À 14h moins 10, je suis allé m'asseoir au parc de l'université. Je me disais comme les Kinoabilia qui bissent. Jusqu'à ce que je vois une jeune femme anglaise, mais d'origine éthiopienne, qui étudie avec nous, qui est venue vers moi. Elle s'est assise à côté de moi et dit, pasteur, Dieu m'a envoyé pour dire que vous avez un problème et c'est moi la solution. Je lui ai dit, non, qui t'a dit qu'on a des problèmes? Il dit, un pasteur veut mentir. Parce que je voulais exposer ça à tout le monde. Il dit, Dieu m'a dit, vous avez un problème et c'est moi la solution. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Je ne partirai pas d'ici. Je suis la solution. Puis subitement, elle m'a entendu crier. Je me suis lâché. Elle s'appelait Elsa. J'ai dit, Elsa. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et à 14h moins 2, elle a pris son téléphone et elle a appelé son mari qui travaille avec UN au Kenya. 15 minutes après, des gros véhicules sont venus. Nous sommes allés habiter ceux qui connaissent Nairobi Mutaiga, les quartiers les plus chers, les plus merveilleux de Nairobi. Et ce soir-là, quand je dormais sur ces beaux lits, je me disais, oh, ongaï, tongaïté. C'est un lit très différent du lit du campus. Dieu reste Dieu. Et 3 semaines après, cette famille qui nous a laissé partir en vacances à Londres, ils nous ont laissé un montant en livres sterling et 4 véhicules avec chauffeur. Je faisais mes courses derrière. Allez, toi que des Sikaboy. Quand Dieu donne. Je l'ai vu agir hier. Et c'est pourquoi je crois encore qu'il va agir aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur. Un mois avant que Philadelphie ne commence, Dieu m'a dit, Roland, je ferai des choses que personne n'a jamais vues. Vous allez commencer avec des moyens qu'il faut. J'ai dit, Seigneur, je prie avec le pasteur Atoms. Jusqu'à ce qu'une semaine avant, à ce moment-là, je fermais toujours mon téléphone. Parce que quand j'ouvrais le téléphone, on me posait la même question. Nous avons appris que. Et toi, tu dis quoi? Et comme Dieu m'avait dit de ne rien dire, je n'ouvrais pas le téléphone. Je me réveille ce matin. Dieu, je sens dans mon cœur la conviction. Ouvre le téléphone à 8h et ferme à 8h30. Et j'ai ouvert à 8h, à 8h10. Je vis un numéro, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je prie. Elle dit, c'est le pasteur Roland Dallo. J'ai dit oui. Est-ce qu'on peut se rencontrer à la pâtisserie nouvelle? À 10h, j'ai dit oui. J'y allais sous la défensive. Je disais, c'est sûr, il va me poser telle question. J'arrive à l'endroit, je ne connaissais pas. Quand j'ai cherché, il m'a fait signe de la main. Je me suis assis. Il a dit, je te suis à la télévision depuis plus de 5 ans, je t'apprécie. Il a commencé à me relater les titres de mes messages. Il a commencé même à me donner, il dit, et j'avais appris certaines choses, une première mauvaise version, et je t'en voulais. Mais il y a 3 semaines, j'ai appris la bonne version, des bonnes personnes. Et il y a 2 jours, Dieu m'a dit de participer à ce que tu vas faire. Et je l'ai vu faire sortir un chéquier. Il a écrit 4. Il a écrit 5. Et puis il a mis un point. Il a pris un premier 0. Un deuxième 0. Un troisième 0. Il n'a pas mis FC. Il a fait ça et puis ça. Quand il m'a donné, quand j'ai repris, je dis, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de 0?
Il m'a posé la question, combien tu as vu? J'ai dit 45 000, il dit, ce n'est qu'un début. Je lui ai dit, j'arrive. Vous savez où je suis allé? Aux toilettes. Et quand j'ai fini de danser, je me suis essuyé le visage, je suis rentré calmement. Alors ça va? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en sortant, j'ai appelé deux personnes, j'ai appelé mon épouse, j'ai appelé Atom Sumbuma. J'ai dit à Atom Sumbuma, instrument mon ami. C'est de ce montant qu'est venu ce groupe électrogène qui fait... Quand vous entendez ce groupe faire boum, vous dites, il y a un Dieu au ciel. Je l'ai vu agir hier. C'est pourquoi je crois qu'il peut agir encore aujourd'hui. Je crois qu'il peut agir encore demain. Et vous permettez que je termine? Cinquième et dernière chose que Josué nous enseigne. Dieu honore la foi. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Dieu cherche là où il y a la foi. La foi honore Dieu. La foi donne du poids à Dieu. Dans Romains chapitre 4, verset 20 à 21, la Bible parlant d'Abraham, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand Dieu voit qu'on croit en lui, il dit, waouh! Ma Bible à moi dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. L'original dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour voir ceux qui ont suffisamment confiance en lui. Là où les autres n'entreront pas, moi j'entrerai. Acclamons le Seigneur et levons-nous pour terminer. Tenons-nous la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main. Nous allons chanter Shama, 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 Shama. La foi c'est un choix. Fais le choix de la foi ce matin. Mais la foi c'est un choix risqué. Il y a des risques à prendre. Les temps révèlent si ces risques valaient la peine. Je refuse que quelqu'un meure de frustration. Alors que nous serons en train de chanter, il y a plusieurs qui sentent qu'ils doivent prendre des risques dans un domaine ou dans un autre. Qui sentent qu'ils doivent oser. Prenez votre Bible, prenez votre cartable, venez vous mettre à genoux ici. Alors que nous chantons Shama. Tu sens que tu dois oser aller dans une certaine direction. Tu te dis où ça passe, où ça casse. Mais tu t'es dit, j'ai longtemps hésité, je veux oser. La foi se sert de la connaissance de Dieu et de la mémoire. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Pas seulement le Dieu de Roland Dallo, il est aussi ton Dieu.
Shama,
Shama, Shama,
celui qui entend. Shama,
Shama, Shama,
Shama, Shama,
tu n'es pas le Dieu d'hier. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, malgré les gens, nous prendrons le pays. Si l'Éternel nous est favorable, malgré les gens, nous prendrons le pays. Shama.
Shama, Shama, Shama,
Shama, Shama, Shama, Shama,
Shama,
Shama,
Shama,
E Chante-le encore une dernière fois. Elohim Adonai. Elohim. Shama veut dire celui qui entend. Celui qui entend. Dieu ne prie tout à l'heure, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à dire, Seigneur, aide-moi à saisir les occasions que tu me donnes. Aide-moi à ne pas les lâcher. Mais Dieu me met à cœur aussi. Il y a des gens qui ont eu à rater des occasions, qui ont des remords, qui ont des frustrations, qui ont des regrets. Ne partez pas, voyez les conseillers, voyez les prédicateurs, voyez les enseignants, confessez. J'aurais dû saisir ça. J'en sais, je ne l'ai pas fait. Que Dieu me donne encore une autre occasion. Parlez au Seigneur.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.